Utopod 037, 26 décembre 2009, le passager clandestin d'Yves Narbonne. Bonjour à tous et bienvenue dans Utopod, podcast francophone des littératures de l'imaginaire. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle d'Yves Narbonne, le passager clandestin, originellement paru dans le numéro 157 de la revue québécoise Solaris. Né à Montréal en 1971, Yves Narbonne s'intéresse très tôt à la préhistoire, la mythologie, la fantaisie et la science-fiction. Son penchant pour les mondes imaginaires le mène droit vers la littérature fantastique et il tire son inspiration des plus grands maîtres du genre. À ce jour, Yves a publié deux récits dans Solaris, revue québécoise de science-fiction et de fantastique, ainsi que quelques nouvelles dans le fanzine Brin d'éternité. Infographiste depuis plus de 15 ans, il vit aujourd'hui sur la rive sud de Montréal où il partage son temps libre entre la littérature et la photographie. La lectrice du jour est Charlotte Raymondin, comédienne cofondatrice de la compagnie de théâtre Cabaret qui n'en est plus à sa première lecture pour Utopod. Plus d'infos à son sujet sur www.utopod.com. Et maintenant, fermez vos paupières, laissez le sommeil vous gagner et place à la littérature.
Le passager clandestin d'Yves Narbonne. Il règne, ce soir, un je ne sais quoi de malsain dans le pub irlandais, bas de plafond et chichement éclairé, que nous avons l'habitude de fréquenter. Cette impression désagréable m'a assaillie dès la première consommation, et la voilà qui m'étreint à nouveau dans le silence lourd de réflexions éméchées précédant la fermeture. Derrière un voile enfumé, j'arrive à peine à discerner les silhouettes des clients, lesquels semblent évoluer au ralenti, tandis que leurs marmonnements atones, étouffés, se fondent en une étrange litanie. Et il faut dire que, tout comme mon copain Jean-Pierre, je suis passablement ivre. Attablés l'un en face de l'autre dans un recoin enténébré, nous observons les derniers clients déserter progressivement l'établissement, leurs traits blafards estompés par l'ivresse et la fatigue. Coincé derrière le bar tel un pachyderme en cage, le lourdeau bourru qui tient le rôle de barman range soigneusement son attirail dans un tintement qui ne nous est que trop familier. Je soupire, comme pour meubler le silence. Nous avons, de toute évidence, fait le tour de nos plus récentes péripéties puisque plusieurs minutes se sont écoulées depuis nos dernières paroles. Je termine ma bière d'un trait puis m'apprête à me lever pour souhaiter bonne nuit à mon camarade lorsque son expression troublée me retient. Je m'adosse, lui jette un regard inquisiteur et lui demande « Qu'est-ce que tu ne m'as pas raconté ?» Jean-Pierre hésite un court instant, puis, avec un rire nerveux, balaie ma question d'un revers de main. « Ah, ce n'est rien, il se fait tard et nous devons rentrer. » Il se lève à son tour, mais je le somme de se rasseoir. « Pas si vite, l'ami. Tu vas d'abord me parler de ce qui te tracasse. » Jean-Pierre m'obéit en grimaçant. Mais je devine qu'au fond, il me sait gré de le retenir. « C'est complètement absurde, » déclare-t-il. « Tu vas me prendre pour le roi des imbéciles. Ça fait longtemps que c'est fait. » Il m'injurie, puis son rire fait écho au mien. Je jette un rapide coup d'œil à ma montre. Nous avons encore 5 minutes. « Allez, raconte-moi. » Il s'allume une cigarette et j'en profite pour le narguer. « C'est ton italienne qui te fait encore languir ?» Il esquisse un demi-sourire, puis, du coin des lèvres, exhale un nuage de fumée tourbillonnante. Depuis que sa femme l'a quitté, Jean-Pierre fréquente une enseignante qui lui en fait voir de toutes les couleurs. « Maria !» « Non. Cette fois, elle n'y est pour rien, crois-moi. » Jean-Pierre joue distraitement avec son verre, le tournant et le retournant en tous sens. Il renifle bruyamment, tire à nouveau sur sa cigarette, puis marmonne « Oh, bon Dieu, que c'est con !»« Mais vas-y, mon vieux, on n'a pas toute la nuit !»« Très bien, très bien. Voilà. » Il lève ses yeux bouffis vers moi et déclare, le plus sérieusement du monde, « J'ai un passager clandestin, Alex. »«
T'as un quoi ?»«
Dans mes rêves, la nuit, j'ai un passager clandestin. »
Je pouffe de rire. Mais qu'est-ce que tu racontes ?
Comme s'il craignait que le serveur entende ce qu'il s'apprête à me révéler, Jean-Pierre s'approche, puis me souffle. Le soir, lorsque je m'endors,
J'ai un garçon qui apparaît dans mes rêves à titre de spectateur ou de figurant, si tu préfères. Et il est toujours vêtu de la même façon, quelles que soient les circonstances. Persuadé qu'il s'agit d'une plaisanterie, je préfère me taire et le laisser poursuivre son histoire. Or, devant mon expression plutôt amusée, Jean-Pierre s'énerve. « Je ne déconne pas, Alex, je te jure que c'est vrai. À la moindre opportunité, ce garçon se glisse dans mes rêves comme un passager clandestin. » Maintenant, je n'ai plus aucun doute. Jean-Pierre veut me faire marcher. Je décide de jouer le jeu. « C'est un de tes étudiants ?»« Non, il est beaucoup trop jeune. J'ignore totalement de qui il s'agit et je suis convaincue que je ne l'ai même jamais croisé. D'ailleurs, si c'était le cas, je m'en souviendrais. » « De quoi a-t-il l'air ?»« C'est un enfant tout maigre, aux joues creuses, âgé d'une dizaine d'années, je dirais. Il est vêtu d'un costume de collégien désuet, tu sais, comme on en voit sur de vieilles photos en noir et blanc. Son visage asymétrique est particulier, pour ne pas dire effrayant, et il traîne toujours sa vieille serviette de cuir qu'il tient très fermement contre lui, comme ça. » À ce point, je ne sais plus si je dois m'esclaffer ou acquiescer gravement. Or, comme je ne décèle aucune trace d'humour dans ses yeux, je fronce les sourcils et affecte une mine plus sérieuse. « Il se présente dans tous tes rêves, ton écolier ?»« Bien sûr que non, mais ses apparitions sont de plus en plus fréquentes. »« Et il fait quoi, au juste ?»« Il te harcèle ? Il te fait la vie dure ?»« Non, non, rien du genre. » Il m'observe. Tout simplement. Cette fois, j'éclate de rire. Alors, c'est pas un passager clandestin, Jean-Pierre, c'est un sale petit voyeur. Ah, t'es qu'un crétin, Alex. Visiblement troublé, Jean-Pierre réussit malgré tout à sourire. Je me cambre dans mon fauteuil de bois et j'aperçois le barman qui nous fait signe qu'il ne nous donne pas plus de 2 minutes. J'acquiesce, puis je déclare. Ça alors ! J'ai jamais rien entendu de tel. Mais moi, qu'est-ce que tu crois ? T'as consulté pour ça ? Sois sérieux, Alex. Tu me vois, toi, expliquer cette histoire à un psy ? Allez, hop, la camisole de force. Non, écoute, ce garçon me fait peur. Un point, c'est tout. S'il était charmant, je pourrais croire qu'il s'agit d'un ange gardien ou quelque idiotie du genre. Malheureusement, c'est tout le contraire. Son visage, en plus d'être étrange, est beaucoup trop sévère pour un enfant de son âge. Et c'est sans parler de son teint cadavérique ou de ses yeux ronds et noirs, pareils à ceux d'un oiseau de proie. Moi, tout ça n'a rien de très rassurant, en effet, dis-je à seul dessein de ne pas le contrarier. Il se fait tard et, en toute honnêteté, cette histoire commence à m'impatienter. Mais Jean-Pierre poursuit. Je vais t'avouer une chose, Alex. Plus que son aspect, c'est sa foutue serviette qui me terrifie. Et la façon qu'il a de s'accrocher à elle comme si sa vie en dépendait. Je me demande ce qu'elle peut bien contenir et j'ai la désagréable impression que c'est quelque chose de... comment dire... morbide. Il braque son regard tourmenté dans le mien. Exactement.
Eh bien, mon vieux, je ne sais pas quoi te dire pour te réconforter, mais la seule chose que je sais, c'est qu'il faut que je file, sinon ma femme va me tuer.
Sous la chaleur accablante de l'après-midi, nous traversons le petit parc du quartier où, plus jeune, nous avions coutume de jouer ensemble. La sueur ruisselle sur mon visage, que j'éponge à l'aide du mouchoir dont j'ai eu la présence d'esprit de me munir. Paul jacasse comme une vieille pie, insensible aux rayons ardents, et il faut dire que ce pauvre postier n'a guère plus que la peau sur les os. Jean-Pierre, quant à lui, traîne légèrement derrière nous, blafard. Pour un peu, on dirait qu'il va s'affaisser, victime d'un coup de chaleur. « Tu parles d'une putain de température !» Je grommelle en m'essuyant le front. J'ai les membres lestés de plomb et la désagréable impression de me mouvoir dans un univers onirique où le plus anodin des gestes exige un effort surhumain. Cette pensée évoque la discussion que Jean-Pierre et moi avons eue 3 semaines plus tôt au pub irlandais. Sourire en coin, je m'adresse à Paul. « Tu veux en entendre une bonne ?» Demande à Jean-Pierre s'il rêve toujours à son écolier de la vieille époque. Tout intrigué, Paul se retourne vers Jean-Pierre. Ce dernier lève les yeux vers le ciel, à la fois irrité et embarrassé, puis ronchonne. « Je n'aurais jamais dû te raconter ça, Alex. » J'insiste. « Mais non, mais non. Allez, Raconte-lui, elle est amusante, cette histoire de petit voyeur. C'est pas un petit voyeur, corrige-t-il agacé. Peu importe. La curiosité de Paul est piquée au vif et il tente par tous les moyens d'en apprendre davantage. Mais Jean-Pierre refuse obstinément de raconter ses mésaventures nocturnes et je suis contraint de prendre la parole. Jean-Pierre prétend qu'un passager clandestin se glisse dans ses rêves.
Quoi ?
S'étonne Paul. Oui, oui, un étudiant s'infiltre dans son sommeil pour jouer les observateurs. Il se plante là, dans son vieux costume d'écolier, serviette à la main. Dis, Jean-Pierre, tu le vois toujours, ton collégien ?
Jean-Pierre hoche timidement la tête tout en s'efforçant de sourire, puis désigne un banc à l'ombre des peupliers. Asseyons-nous un peu.
Nous nous écrasons pesamment sur le banc, puis, tandis que je m'éponge à nouveau le visage et me laisse bercer par le doux bruissement des arbres, Jean-Pierre résume les faits à Paul. Au terme de son récit, Paul pousse un grand éclat de rire et s'exclame « Quelle histoire absurde ! Et ce garçon, tu le vois souvent ?»«
Toutes les nuits. »
Je sursaute. « C'est pas ce que tu m'as dit l'autre soir ?» Jean-Pierre grimace. « Ses apparitions sont plus fréquentes.
Ah, mais à propos de rêves, il faut que je vous raconte. L'autre nuit, j'ai fait un de ces rêves érotiques. »
À ce seul souvenir, son visage retrouve ses couleurs et un large sourire s'imprime sur ses traits. Il pointe un index accusateur dans ma direction. « Et c'est ta faute !»«
Mais qu'est-ce que je viens faire là-dedans, moi ? C'est toi qui m'as mis cette racoleuse en tête l'autre soir.
Maria ?
Qui d'autre ? Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'y allait pas de main morte. »
Paul pousse un ricanement retentissant. C'est un célibataire endurci et les histoires de sexe le rendent toujours exubérant.
« Tu l'as monté, sale pervers ! » s'écrie-t-il en roulant le bassin d'une manière aussi grotesque que maladroite. « C'était de toute beauté !» rétorque Jean-Pierre, fort de l'impact qu'a eu son aveu. « Je me suis retrouvé sans dessus-dessous à baiser cette diablesse dans des positions toutes plus extraordinaires les unes que les autres, tandis qu'elle me criait de ses bêtises !»
J'avais rencontré Maria à quelques reprises, puisqu'elle enseignait au même collège que Jean-Pierre. C'était une femme dans la trentaine, plutôt bien roulée mais étonnamment timide et austère. Elle parlait peu, se dérobait au regard et, poussée dans ses derniers retranchements, se contentait d'afficher un sourire de joconde. Rien à voir avec cette image que l'on entretient des femmes sombres et chaudes de la Méditerranée. Et pourtant, selon mon bon copain, derrière cette sainte nitouche se cachait une sacrée nymphomane. Alors que Jean-Pierre entre dans les détails, je l'interromps. «
Mais ton écolier, il était présent dans ce rêve ?»
Une gifle ne l'aurait pas plus décontenancé. Il se tait brusquement, son visage s'allonge, livide. Pas au début, non. Mais à un certain moment, je me suis rendu compte qu'il était là, ce petit abruti. Si près, en fait, que je pouvais presque le toucher de la main.
« Mais c'est qu'il veut apprendre, le pauvre !»
s'exclame Paul en me lançant un regard amusé.
« Cette Italienne connaît si bien sa matière !»
Sourd à la plaisanterie, Jean-Pierre enchaîne. Il se tenait là, immobile, à observer nos ébats sans dire un mot, avec son impassibilité si caractéristique, et quand son regard se posait sur elle, ses traits semblaient se durcir, s'assombrir, comme s'il la prenait pour la mère de tous les péchés. Nous sommes confortablement installés au salon à siroter un cognac. Le silence s'est établi dans la maison, troublé seulement par le tic-tac régulier de l'antique horloge dont Anne a hérité. Comme j'étais sans nouvelles de Jean-Pierre depuis plusieurs jours, je l'ai invité à dîner avec nous. Or, dès son arrivée, ses traits là, ses gestes nerveux et son regard enfiévré nous ont immédiatement convaincus, ma femme et moi, que mon ami ne se portait pas bien. Après le repas, durant lequel Jean-Pierre a été avare de paroles, Anne s'est rapidement éclipsée pour aller coucher les enfants. Elle nous a ensuite souhaité bonne nuit avant de disparaître dans la chambre. Ma femme est perspicace. Elle sait que notre hôte, courtois mais réservé, ne révélera rien de ses angoisses en sa présence. J'observe Jean-Pierre à la dérobée. Son état commence sérieusement à m'inquiéter. Avec sollicitude, je lui pose la question qui, depuis son arrivée, me brûle les lèvres. «
Qu'est-ce qui ne va pas ?»«
Rien, je t'assure.
Ne joue pas ce jeu avec moi, Jean-Pierre. T'as vu ta tête ? Il se mord la lèvre, geste qu'il a machinalement répété tout au long de la soirée. J'ai du mal à dormir. Je fais de l'insomnie. Avec tout ce que t'as traversé au cours des derniers mois, c'est plutôt normal. Je fais allusion au départ de sa femme ainsi qu'à la perte plus récente de son emploi. C'est pas ça. Alors c'est quoi ? Il lève son visage vers moi et, à ce moment, je perçois la détresse sans borne qui est la sienne. C'est ce garçon, Alex. Il me hante. Je pousse un long soupir de lassitude et dépose mon verre. Mon ton, cette fois, est plus ferme. Bon sang. Jean-Pierre, t'es conscient de ce que tu dis ? Tu ne comprends pas, Alex. Il apparaît désormais dans tous mes rêves. Il n'en manque plus un seul. Et c'est toujours la même chose. Il me tend son sac d'écolier. Cet avorton veut que je l'ouvre, Alex. Mais j'ai terriblement peur de ce qu'il peut contenir. Pas si fort. Tu vas réveiller les enfants. Ce n'est qu'un rêve, Jean-Pierre. Ce garçon n'existe que dans ton imagination. Et puis qu'est-ce que ça va changer à la fin que tu l'ouvres ou non, cette damnée serviette ? Pour autant que je sache, cela mettra probablement fin à cette interminable série de cauchemars. Jean-Pierre se passe vigoureusement les mains sur le visage. J'ai un pressentiment funeste, Alex. Je crains qu'au moment où je vais l'ouvrir, ma vie bascule dans l'horreur. Ne dis pas de bêtises. Où donc est passé l'enseignant raisonnable que j'ai connu ? Tu traverses une période difficile, sûrement la pire que t'as jamais eu à traverser. Mais ça va passer, crois-moi. Et dans quelques semaines ou quelques mois, les choses vont aller beaucoup mieux pour toi. Il émet un rire amer. Et si c'était ma mort que je pressentais ? Cette déclaration morbide me fait sortir de mes gonds. Ça ! C'est la pire connerie que t'as dite depuis que je te connais. Tu veux la vérité, Jean-Pierre, t'es épuisé. T'es au bout du rouleau. Va voir un médecin qu'il te prescrive des calmants, des antidépresseurs, des pilules, merde, n'importe quoi pour que tu puisses rattraper tout ce sommeil perdu et retrouver tes esprits. Je frappe du poing le bras de mon fauteuil puis rajoute « Ressaisis-toi à la fin. Tu te comportes comme un adolescent. » Jean-Pierre se lève brusquement. T'as tout à fait raison. Alex, il faut que j'aille voir un psy. Et t'inquiète, je vais arrêter de te casser les pieds avec mes histoires à la con. Là-dessus, il s'empare de son veston et franchit la porte en trombe. Je tente de le retenir, mais en vain. Il disparaît déjà dans la moiteur du soir, sous la lueur blafarde des réverbères. Le téléphone sonne, m'arrachant brutalement au sommeil. Cognac aidant, je me suis assoupie sur le canapé. La sonnerie retentit de plus belle. Bon sang, quelle heure peut-il bien être ? Un rapide coup d'œil à l'horloge m'apprend qu'il est 3h07. Je frissonne, appréhendant le pire. Les appels nocturnes n'augurent jamais rien de bon. Je m'empare du combiné au moment où la sonnerie retentit pour la troisième fois. Ma voix enrouée par le sommeil et l'alcool, je croasse avec irritation. Qui est-ce ? Alex ? C'est moi. Je reconnais Jean-Pierre en dépit de sa voix chevrotante, pourvu qu'il n'ait pas fait de conneries. Je songe aussitôt, envahi par le regret de ne pas être parvenu à trouver les mots susceptibles de le retenir. On ne sait jamais à quoi s'en tenir avec ces foutus dépressifs. Ils se présentent chez vous pour que vous leur veniez en aide, puis ils vous rappellent quelques heures plus tard le canon sur la tempe. Plus calmement, cette fois, je lui demande « Que se passe-t-il ? Tu sais, ce sac d'écolier ? Oui. Eh bien, je l'ai ouvert. » À ce moment, Anne, vêtue d'une robe de nuit blanche, surgit des ténèbres ainsi qu'une apparition. « Qui c'est ? » demande-t-elle sur un ton où perce l'anxiété. Je pose ma paume sur le combiné. C'est Jean-Pierre. Je m'en charge. Elle secoue la tête, puis, sans demander son reste, fait demi-tour et disparaît dans la chambre. Je reporte toute mon attention sur la voix au bout du fil. Qu'est-ce qu'il contenait ? Le sac ?
Des choses troublantes, Alex, des choses absolument troublantes. Explique-toi, bon sang. C'est pas une heure pour jouer aux charades. Et il contenait des notes d'anatomie à une poupée. Tu sais, comme celle de ta sœur que nous nous amusions à démembrer quand nous étions petits.
Bêtement, je répète, des notes d'anatomie et une poupée.
Ce n'est pas tout, Alex. Il contenait aussi autre chose.
Je t'écoute.
Une vieille photo d'Hélène, alors qu'elle était enfant. Enfin, pas tout à fait, puisque son visage est différent. Sur cette photo, elle affiche le visage de Maria.
Je commence à en avoir assez. Nul besoin d'être psychologue pour comprendre l'origine de ces cauchemars. Jean-Pierre n'accepte ni le départ d'Hélène, sa femme, ni son congédiement, et ce ne sont certainement pas ses escapades érotiques avec cette satanée italienne qui vont arranger les choses. À la hâte, je mets un terme à cette discussion.
Bien, maintenant que tu le connais, le secret de ce sac, remets-toi au lit. Je te parie que tu n'es pas prêt de le revoir, ton passager clandestin.
La pièce est plongée dans l'obscurité. Je suis seule, à moitié ivre, et mes pensées n'orbitent plus qu'autour de ce drame inconcevable survenu la semaine précédente. Jean-Pierre a assassiné Maria, ou, devrais-je plutôt dire, démembré Maria, comme une poupée. Lorsque Paul m'a téléphoné pour m'apprendre la terrible nouvelle, j'en suis restée si secouée que je me suis affaissée contre le mur du salon pour y demeurer pendant près d'une heure sans bouger ni prononcer la moindre parole. J'aurais bien aimé croire qu'il s'agissait d'une mauvaise blague, mais Paul, à l'autre bout du fil, pleurait comme une veuve. Par son récit entrecoupé de sanglots, j'ai appris que Jean-Pierre, complètement nu et couvert de sang, avait sagement attendu les agents de police. Qu'à leur arrivée, il les avait poliment salués, assis derrière la table de cuisine sur laquelle il avait commis l'ignoble boucherie, et qu'il s'était laissé menotter sans offrir la moindre résistance. Je ne puis décrire la culpabilité qui m'a littéralement dévastée au cours des jours suivants. Heureusement, Anne est parvenue à trouver les mots pour me réconforter et, surtout, me faire comprendre que je n'y étais pour rien. Quoiqu'elle se demande toujours ce qui a bien pu pousser cet enseignant modèle à commettre un geste aussi immonde. Je me suis longtemps posé la même question. Mais aujourd'hui, si je ne me la pose plus, c'est que je connais la réponse. Il y a 3 jours, les autorités sont venues me rencontrer pour me faire part d'un détail qu'ils sont incapables d'expliquer. Sur les lieux du crime, ils ont trouvé de curieux schémas, vraisemblablement tracés de la main d'un jeune enfant. Des schémas anatomiques. Je leur ai dit que Jean-Pierre n'a jamais fait mention de ces dessins. Leur avouer le contraire m'aurait plongé dans un profond embarras puisque, depuis quelques nuits, j'ai ce garçon des plus étranges qui apparaît dans mes rêves. C'est un enfant chétif, âgé d'une dizaine d'années, engoncé dans un costume de collégien désuet, semblable à ceux que l'on retrouve sur de vieilles photos en noir et blanc. Or, ce n'est pas son faciès sévère qui me terrifie, c'est cette vieille serviette de cuir à laquelle il s'accroche désespérément, comme si sa vie ou celle de quelqu'un d'autre en dépendait.
Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À l'heure où je vous parle, la nouvelle mouture du site d'Utopod devrait être en ligne. Depuis le temps que je vous l'annonçais, ça y est, le grand moment est enfin arrivé. Merci infiniment à Clément Bourgoin, webmaster de l'émission, pour ses idées, sa disponibilité et son super boulot. Grand merci aussi à Aurélien Polis, illustrateur de talent, qui a composé le bandeau du site. Allez jeter un coup d'œil, vous m'en direz des nouvelles. Le site est appelé à évoluer au gré des besoins, des expérimentations et de vos retours, bien que sa forme globale soit désormais acquise. N'hésitez pas à m'écrire à lucas@tutopod.com pour me faire part de vos remarques, c'est essentiel pour moi. Il y a pas mal de changements à noter, bien sûr, notamment une manière beaucoup plus simple de télécharger les épisodes au coup par coup, un espace archive qui liste l'ensemble des épisodes par catégorie, date, titre, auteur, nom du comédien, genre du récit, une structure de site et un template plus intuitif, un fil de l'info plus fourni et un forum de discussion. Je compte sur vous pour l'alimenter, c'est une tribune d'expression pour les auditeurs et un moyen d'établir un contact plus régulier entre eux et la production de l'émission. Enfin, un dernier détail, désormais pour les éventuels problèmes techniques que vous rencontreriez, vous pouvez vous adresser directement au webmaster de l'émission, Clément Bourgoin, soit en lui écrivant directement à clement@utopod.com, soit en passant par le formulaire anti-spam du site. Voilà, je vous souhaite tout plein de bonnes choses pour la nouvelle année et vous donne rendez-vous fin janvier pour un texte hilarant de Xavier Montméjean. Bye bye.